Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
On va prier pour la parole. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs. Au travers de ta parole, je te remets chaque personne ici afin qu'ils puissent recevoir de toi ce que tu veux leur dire. Je te demande de oindre ma bouche et que ce message puisse couler et porter son fruit au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Ce matin, nous allons parler de la libération de la parole prophétique. Comment cette parole peut être libérée? Et nous allons lire dans le texte, un texte principal dans le 2 Rois, chapitre 3. Chapitre 3, c'est un texte qui commence au verset 1 et qui se termine au verset 27. Et on va étudier ce passage ensemble et voir comment et pourquoi une parole prophétique peut être libérée dans une situation particulière. Déjà, avant tout, il faut qu'il y ait une situation.
Amen.
Il faut qu'il y ait une situation. Et il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait ce ministère de parler de la part de Dieu par rapport aux choses d'une façon précise. Et ceci dit, quand ces conditions ne sont pas vraiment réunies, nous qui ne sommes pas sous l'Ancien Testament, et je dis gloire à Dieu pour cela, parce que nous sommes sous une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses, nous qui avons le Saint-Esprit au-dedans de nous, nous pouvons recevoir chacun pour nous-mêmes la parole dont nous avons besoin concernant les situations que nous traversons.
Amen.
Ne vous confiez pas dans les hommes, mais confiez-vous dans le Seigneur. Donc ici, il se passe quelque chose de particulier. Il y a trois rois, et on va commencer par lire au verset 1. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point.
Mu mwaka ugira cumi n'umunani, Yehoshafati, umwami w'Abayuda, ari ku ngoma, niho Yehoramu mwene Ahabu nyina mu Bisirayeli amara imyaka 12 ari ku ngoma I Samaria, akora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. Mugabo ntiyashikira se na nyina, kuko yakuye inkingi y'abayari yose yari yashinze.
Donc ici on voit un homme qui se retrouve roi sur Israël, le fils d'Akab et de Jézabel. Et c'était un homme qui ne marchait pas vraiment avec Dieu parce qu'il ne comprenait pas vraiment les choses de Dieu, et qu'à la moindre occasion, au lieu de se tourner vers le Seigneur, soit il accusait Dieu de ses malheurs, soit il accusait l'homme de Dieu de ses malheurs.
Et
c'était un homme qui vivait dans une incompréhension complète. Son père et sa mère étaient très profonds dans l'idolâtrie. Lui, moins, parce qu'il n'avait pas reconstruit les autels de Baal et d'Astarté.
Mais
il adorait Dieu sur les hauts lieux.
Il
se retrouve roi en même temps que Josaphat, roi de Juda.
À l'époque
d'Élisée, sous le ministère d'Élisée, Élisée qui était prophète en Israël à cette époque. Et il y a une situation qui va se manifester. Un homme qui s'appelait Mécha, roi de Moab, va se révolter contre lui. Parce que le roi de Moab était assujetti à un tribut. Et comme Akab est mort, son fils prend la suite. Alors il va se soulever contre le fils en se disant, moi j'ai besoin de me débarrasser de ce tribut que je suis obligé de payer, et il va déclarer la guerre. Il va déclarer la guerre à Joram, fils d'Akab. Et Joram va aller voir Josaphat, le roi de Juda, pour lui dire, est-ce que tu viendras avec moi combattre mon ennemi Moab?
Et
Josaphat dit, j'irai moi avec toi et mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Donc les voilà partis. Les voilà partis selon un plan humain. Et finalement, Josaphat va demander au verset 8, mais par quel chemin montrons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Donc on voit une chose déjà, c'est que Josaphat, qui pourtant était un bon roi d'Israël, ne prend pas la peine de consulter Dieu. Il se précipite dans cette entreprise pour suivre le roi Joram et suivre le plan de ce roi. Et vraiment, je sens que le Seigneur veut avertir plusieurs personnes ici. Fais attention où tu mets les pieds. Fais attention qui tu suis et où tu vas. Amen. Parce que je sais que Dieu finalement va accorder une grande délivrance. Mais Josaphat a fait une erreur. Il n'a pas consulté Dieu. Il est parti sur la parole d'un homme. Et ensuite, ils se sont retrouvés dans une circonstance difficile. Et parce que Josaphat était un homme de foi, la parole de Dieu a ensuite été donnée pour la délivrance. Mais il a mis les pieds là où il n'était pas vraiment supposé les mettre. Ce qu'il aurait dû faire, c'était de demander à Dieu, est-ce que je dois combattre avec Joram? Ça, c'était la première question. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois m'associer au roi Joram? Est-ce que c'est une bonne chose?
Et
le Seigneur aurait pu dire oui ou non. Là, je ne suis pas en train de remettre en question, parce qu'on voit par la suite qu'il y a vraiment une grande délivrance qui s'opère. Mais avant de se lancer dans des entreprises, priez. Demandez à Dieu, est-ce que c'est ce que je dois faire? Tu n'as pas besoin de demander à Dieu, par exemple, si je suis avec Essoum et que j'ai envie de dire à Essoum, tu viens avec moi, on va aller acheter du pain. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu pour cela. Amen. Je peux aller acheter du pain avec Essoum. Ça ne sera pas un problème. En principe. J'espère. D'accord. Ça ne sera pas un problème. Mais quand il s'agit de se lancer dans des entreprises majeures, avant de dire oui, je viens avec toi, Moi avec toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Ça veut dire une grande implication.
Ça
impliquait la sécurité et la vie d'autres personnes.
Ça
impliquait beaucoup de choses, des dépenses. Et ça aurait pu finir en désastre et en catastrophe. Donc ici, on voit que Josaphat n'a pas cherché Dieu, il s'est juste précipité comme ça. Donc, les voilà partis. Et une fois qu'ils arrivent à un endroit particulier, ils se retrouvent devant un énorme problème. Verset 9. Je vous rappelle qu'on est dans 2 Rois chapitre 3. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, parce qu'ils étaient à trois rois, partirent et après une marche de 7 jours, selon la direction qui avait été donnée par Joram, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui le suivirent.
Umurongo w'icenda ngo nuko umwami w'Abisirayeli aragenda bo n'umwami w'Abayuda n'umwami w'Abanyedomu baca ahasiguye maze bagenze iminsi indwi mu nzira ingabo zibura amazi bo n'imyombu babura amazi.
Alors il se retrouve à manquer d'eau.
Bisangano babuze amazi.
Est-ce que j'aimerais c'est qu'on étudie ensemble le cœur du roi
Joram
et le cœur du roi Josaphat.
Regardez,
verset 10. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Voyez ici, Joram accuse Dieu. Il accuse Dieu en disant c'est l'Éternel qui nous a amenés dans cet endroit et pour que nous soyons détruits entre les mains de Moab. Et quand on lit l'histoire, on voit que c'est Joram tout seul qui a décidé d'aller dans cet endroit.
Amen.
Et vraiment, ce que je veux, c'est que vous compreniez qu'il faut faire attention d'abord avant de faire quelque chose de majeur, de chercher vraiment le Seigneur, de chercher sa volonté, de chercher sa direction. Et quand les choses tournent mal parce que on n'a pas cherché Dieu, qu'on ne vienne pas accuser Dieu de tous nos malheurs.
Amen.
Qu'on ne vienne pas accuser Dieu de tous nos malheurs.
Et
heureusement, Joram n'était pas seul. Il y avait Josaphat qui était là à côté de lui. Et ça lui a permis de faire une expérience avec Dieu.
Vous
savez, il y a des personnes qui sont parfois à côté de nous. Et du fait de leur cœur, de leur connaissance de Dieu, de leur attitude, cela nous permet de faire une expérience particulière avec Dieu. Et c'est ce qui se passe pour cet homme. Josaphat va lui dire, il va dire, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui, le roi d'Israël. » Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Amen.
W'Abisirayeli aramwishura ati Elisa mwene Shafati ari hano yahora ari umusuku wa Eliya. Yehoshafati aravuga ati ijambo ry'Uhoraho riri muri we. Nuko umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati n'umwami w'Abanyedomu baramanuka baja yari.
Ici le roi Josaphat se réveille.
Hano umwami Yehoshafat arakanguka.
Et c'est bien se réveiller, amen.
Kandi ni byiza gukanguka.
Oh, on a un problème.
Aravuga ati dufite ingorane.
Mais Il faut qu'on consulte Dieu. Vous savez, à cette époque, à l'époque de l'Ancien Testament, quand on avait besoin de consulter Dieu, il fallait aller voir un prophète. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Amen. Josaphat était roi, mais il n'était pas prophète. Il y a eu des époques où des rois comme David, par exemple, David était roi et il était prophète aussi. Mais quand David s'est trouvé dans certaines situations, il a dû chercher la parole de Dieu, que ce soit chez Ésaïe, non, chez le prophète Nathan. Amen. Amen. Il a cherché la parole de Dieu et il a consulté Dieu. Donc ici, Josaphat sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire et il fait ce qu'il faut faire. Il dit, j'ai besoin de la parole de Dieu. Et il reconnaît. Écoutez bien. Il reconnaît le ministère d'Élisée. Il dit, il rend témoignage. La parole de l'Éternel est avec lui. Et ça, c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu au travers d'un ministère, vous avez plutôt intérêt à reconnaître ce ministère. Si vous ne le reconnaissez pas, vous ne recevrez rien. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons faire vraiment attention les uns comme les autres. Tout le monde. Moi incluse. De savoir comment on regarde et qu'on considère les autres ministères. Ou le ministère. Que ça peut être vos pasteurs, des gens qui viennent exercer le ministère ici, ou d'autres personnes qui exercent le ministère ailleurs. Nous devons vraiment examiner nos cœurs et faire attention de comment nous voyons ces personnes. Amen. Si tu as du respect pour le serviteur de Dieu, que tu reconnais l'onction que Dieu a mis sur sa vie et que tu as un bon cœur, tu pourras recevoir au travers du ministère de cette personne. Mais si tu commences à avoir un cœur troublé ou un esprit critique, je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui se plaisent, et je sais que ce n'est pas le cas d'entre vous, d'aucun d'entre vous ici, c'est pour ça que je le prends comme exemple. Mais il y a des personnes qui se plaisent à critiquer le ministère de Bénin, pour vous donner un exemple. Et ils sont tout le temps en train de dire et ceci, et cela, ce n'est pas un homme de Dieu, il a tel et tel problème, telle et telle chose qui ne vont pas dans sa vie. Et certaines personnes ont vraiment, vraiment, vraiment été loin et loin dans la critique. Maintenant, si Bénin devait venir dans un endroit où ces personnes sont là et que ces personnes soient malades, par exemple, pourront jamais être guéris, pourront jamais rien recevoir parce qu'ils se sont eux-mêmes coupés. Amen. Ils se sont retranchés, ils se sont coupés eux-mêmes de la bénédiction qui coulait au travers de cette personne, au travers de ce ministère. C'est pour ça qu'il faut faire très attention du regard, des pensées et des paroles qui sortent de notre bouche concernant les hommes de Dieu. Amen. S'ils sont hommes ou femmes de Dieu, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a choisis. Et Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient parfaits. Parce que si Dieu devait choisir des personnes parfaites, il choisirait personne. À part Jésus, bien sûr. Mais après Jésus, personne n'a été parfait. Le premier grand serviteur de Dieu qui a paru juste après Jésus, quelque temps avant qu'il soit loin, il a renié Jésus trois fois. L'apôtre Pierre, Et quelque temps plus tard, on voit dans les Actes des apôtres, il se fait un petit peu tirer l'oreille par l'apôtre Paul. Paul lui dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger chez les païens et quand les juifs arrivent, tu te caches. Donc
vous
voyez, Pierre n'était pas un homme parfait. Celui qui est venu juste après Jésus. Et si on regarde les uns après les autres, après les autres, après les autres, parce que je vous assure que tout n'est pas écrit dans la Bible et tout n'est pas écrit non plus concernant les différents hommes de Dieu qui ont paru depuis Jésus. Il y a des choses qui sont écrites, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui sont connues, d'autres qui ne le sont pas. Mais en tout cas, si vous voulez bénéficier du ministère et de l'onction que Dieu a mis sur quelqu'un, faites attention à ce que vous dites sur cette personne et surtout ce que vous en pensez. Parce que quand on commence à mal penser ou mal parler d'un serviteur de Dieu, c'est comme si on parle mal de Dieu lui-même. Amen. C'est exactement pareil que si on parle mal de Dieu. Parce que qui peut dire « je me suis appelé moi-même par mon propre choix et j'ai fabriqué l'onction qui est sur ma vie » quand on est véritablement un serviteur de Dieu? Personne ne peut dire ça. Donc quand on dit une chose ou une autre, c'est comme si on est en train de dire « Dieu, tu t'es trompé. Tu n'aurais pas dû le prendre lui. Tu aurais dû me prendre moi. » Parce que c'est souvent c'est ce qui ressort.
Tu
n'aurais pas dû la prendre elle. Tu n'aurais pas dû le prendre lui. Tu aurais dû me prendre moi. Je suis tellement meilleur. Si c'était le cas, Dieu t'aurait pris toi. Pourquoi Dieu prendrait quelqu'un de pas bien? C'est pour mettre, alors qu'il a quelqu'un de très bien à la place. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Donc, comment Josaphat, par son cœur, par son attitude, va permettre à cette situation de se renverser? Parce que je vous assure que là, les choses étaient mal parties. Ils se sont précipités dans un chemin qui sans prier. Ils se retrouvent devant un problème énorme. Joram, le roi d'Israël, se met à pleurnicher, à se lamenter. Nous allons mourir. Et Josaphat dit, on a besoin de chercher Dieu. On a besoin d'une parole de Dieu. N'y a-t-il pas quelqu'un ici qui puisse nous donner cette parole? Et ensuite, il reconnaît le ministère d'Élisée. Il
dit,
Dieu parle au travers d'Élisée. Nous allons le consulter. Verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ses trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais pas comme c'est gentil. » On voit la réponse d'Élisée. Quand Joram, Josaphat et le roi d'Édom viennent consulter la parole de Dieu, ils vont chez Élisée. Et Élisée va commencer à dire des choses vraiment dures. Vraiment dures à Joram.
Il
lui dit, va voir les prophètes de ton père. Va voir les prophètes de ta mère. Je n'ai rien à te dire.
Quand
il est dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire, je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien à faire avec toi,
Joram.
Si j'ai quelque chose à dire ou quelque chose à faire, ça sera avec le roi Josaphat. Mais toi, je n'ai rien à te dire.
Et
voyez, le prophète Élisée, c'était un homme de Dieu, amen.
Amen.
Un bon homme de Dieu, amen. Qui écoutait Dieu. Non? Il écoutait Dieu. Oui? Amen. Il écoutait Dieu, il aimait le Seigneur, il était 100% consacré à Dieu. Quand il parlait la parole de Dieu, c'était vraiment la parole de Dieu. Il a fait un certain nombre de miracles parce qu'il a fonctionné dans le double de la portion de l'onction qui était sur Élie, dans l'onction. Et pourtant, il va parler comme ça du roi Joram. Il y avait quelque chose qui émanait de cet homme. Et malgré le fait, parce qu'on va le voir un peu plus loin dans ce texte, malgré le fait que Dieu opère une grande délivrance, Joram avait un sérieux problème de cœur. On le voit un petit peu plus loin. On va regarder le cœur de Joram, et ensuite on va voir la délivrance que Dieu va opérer et comment la parole va être libérée. Donc, de Rois chapitre 5, c'est l'histoire de Naaman le lépreux qui entend qu'il peut être guéri s'il va en Israël. Et Naaman, il va voir le roi Joram parce que c'est tout ce qu'il connaît. Il ne va pas voir la bonne personne. Et là encore, que ça puisse parler aussi à votre cœur. Quand vous cherchez quelque chose, adressez-vous à la bonne personne. Pas forcément à celle qui a un nom plus connu que l'autre ou je ne sais quoi d'autre.
Amen.
Et la bonne personne, en l'occurrence, dans cette situation, c'est Élisée. Donc Naaman va voir le roi Joram
et
il lui donne des lettres, une lettre de la part du roi de Syrie, et dans cette lettre il est dit, maintenant tu vas guérir. Tu vas guérir mon serviteur Naaman. Roi Joram, je t'envoie mon serviteur Naaman et tu dois le guérir. Et quand Joram va entendre ces paroles, qu'est-ce qu'il va faire?
De
Rois chapitre 5, verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Précédemment, on voit que ce roi accuse Dieu dans l'histoire d'avant. Joram accuse Dieu. L'Éternel nous a amenés ici pour nous livrer entre les mains du roi de Moab. Maintenant, on voit autre chose, un autre trait caractère de cet homme. D'abord, il n'a aucune foi, ça on le savait. Mais en plus, il est paranoïaque. Et ça, vraiment, je veux vous avertir. Faites attention. Comment vous recevez les choses? Comment vous recevez les paroles? Ici, ce n'était pas adressé contre Joram. Amen. Le roi de Syrie ne cherchait pas une occasion de dispute. C'est simplement, c'était une erreur de jugement. On envoie Naaman chez le roi au lieu de l'envoyer chez le prophète. Une erreur de jugement, une erreur d'orientation. Et là, Joram le prend contre lui personnellement. Deuxième chose pour laquelle vous devez continuellement prier, mes frères et mes sœurs, si vous ne voulez pas devenir la proie du diable comme ça a été le cas de cet homme qui ne connaissait pas Dieu, priez continuellement. Seigneur, donne-moi de comprendre ce qui se passe vraiment. Je ne veux pas évaluer, juger les choses selon mes pensées, selon mes émotions, ou alors selon les blessures que j'ai subies dans le passé. Comme le disait le Seigneur au début de ce culte, laisse le passé derrière toi, oublie le passé. Ne permets pas au passé de déterminer ce que tu penses ou ce que tu dis ou ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a fait du mal dans le passé. D'ailleurs, pas peut-être, c'est certain. Qui peut dire ici, je n'ai jamais eu mal dans le passé? S'il vous plaît, levez la main. Et personne ne lève la main, et c'est normal. Si vous étiez des anges, vous pourriez lever la main, mais vous n'êtes pas des anges, vous êtes des hommes. Le passé nous a toujours fait mal un jour ou l'autre. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Permets-lui de guérir ton cœur. Permets-lui de te faire oublier ces choses passées afin qu'elles ne déterminent pas tes réactions présentes. Parce que forcément, tu vas mal réagir. Inévitablement. Tu risques de devenir paranoïaque, de penser qu'on te veut du mal, alors que ce n'est pas le cas. Parce que là, Naaman ne voulait pas de mal au roi Joram. La seule chose qu'il voulait, c'était être guéri. Amen. Et le problème de ce roi, et vraiment je prie que ça ne soit pas ton problème à toi qui es ici ce matin. Le problème de ce roi, c'est qu'il ne tire pas des enseignements de ce qu'il entend, de ce qu'il voit et de ce qu'il expérimente. On va continuer ce chapitre 3 et voir quel délivrance extraordinaire Dieu manifeste au travers de la parole prophétique. Ici au chapitre 5, le monsieur, il a déjà oublié qui est Dieu. En fait, c'est pas parce qu'il l'a oublié, c'est juste qu'il l'a jamais su. Vous savez, il y a des personnes, c'est vrai dans le naturel et c'est aussi vrai dans le spirituel. Il y a des personnes qui ne comprennent rien, ils n'arrivent pas à comprendre, leur intelligence est obscurcie. Ça peut être obscurci par différentes choses. Parfois l'intelligence naturelle de quelqu'un est obscurcie. Et tu lui dis 2 plus 2 égale 4. Et tu dis, d'accord, merci. Après, tu retournes le voir. Tu lui dis, au fait, 2 plus 2, ça fait combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça ne rentre pas. Vous savez, parfois, je peux le dire, ça m'arrive de temps en temps d'en parler. J'avais un de mes enfants qui avait ce problème. Quand j'ai voulu lui apprendre à lire, parce que j'étais obligée d'enseigner mes enfants, j'ai voulu apprendre à lire à cet enfant, ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. Et ce n'était pas parce que j'étais une mauvaise enseignante. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. M-A-M-A. M-O-M-O. M-I-M-I. M-E-M-E. Et c'est écrit. Et on y va. M-M-M-I-M-O-M-U. M-I. Je ne sais pas. Et pendant des heures, et des heures, et des heures. Mais tu vas écouter un peu ce qu'on dit. Je t'ai dit, ma, me, mi, mo, mu. Écoute,
on vérise.
Tu penseras autre chose après.
Ah, tu la vie,
tu rêveras après.
Ah, tu l'as écouté.
Et maintenant, je te demande d'écouter.
Ah, tu veux rendre compte de on vérise.
D'accord. Ok. Ma, me, mi, mo, mi.
Ma, mi, mo, mo.
Alors?
Urero.
Je ne sais pas.
Tu n'as pas entendu.
Me.
Mais.
C'est pas ça.
Si vio.
Ok, les menaces ne marchent pas.
Ukumu terubwo bani bikunda.
Si les menaces ne marchent pas, les bonbons vont marcher. Cherche une autre technique. Alors on met un petit bonbon à côté de ma, un autre à côté de me, mi, mo, mu. Alors j'ai dit, écoute-moi, si tu arrives à le dire, tous ces bonbons-là seront à toi. À chaque fois que tu dis bien, tu prends le bonbon. Mi. Mais non, c'est ma!
Atinima!
Et je rends gloire à Dieu. Parce que les choses ont changé. Par la prière. Et par la foi. Est vraiment changé. Entièrement changé. Je rends gloire à Dieu. Parce qu'il a réussi. Vraiment très bien. Par la grâce de Dieu. Donc, on voit que les gens peuvent parfois avoir l'intelligence naturelle obscurcie. Mais parfois, c'est aussi la compréhension des choses spirituelles. Tu ne comprends pas. Parce que tu es dans tes pensées. Parce que tu es dans tes raisonnements. Parce que tu es dans tes blessures. Parce que tu es dans ta propre volonté. En gros, tu es dans ton âme. Et quand on vit dans son âme, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Amen. Joram avait eu une leçon. Il a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Mais il n'a pas compris. Ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. Regardons ensemble. Dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. On voit que le roi Ben-Hadad va... Le roi de Syrie va rassembler toute son armée et assiéger la ville de Samarie. Et dans la ville de Samarie, il y prévaut une situation dramatique. Les gens n'ont rien à manger. Ils n'ont plus rien à manger. De la sorte que les gens vont commencer à tuer leurs enfants et manger leurs enfants. C'était vraiment dramatique. Et le roi Joram, alors qu'il est en train de marcher sur la muraille pour faire un petit peu le tour de la situation, regarder les gens, il entend deux femmes qui sont en train de se disputer et l'une dit, Seigneur notre roi, dis à cette femme de donner son enfant parce qu'elle le cache. Hier on a mangé mon enfant, aujourd'hui on doit manger le sien. Et quand Joram entend ça, ça produit une colère et une angoisse aussi dans le cœur de cet homme. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Chercher Dieu. D'ailleurs, il aurait dû chercher Dieu bien avant qu'on en arrive là.
Amen.
Vous savez qu'il y a des gens qui cherchent Dieu quand c'est trop tard. Quand il n'y a plus aucun espoir. Alors comme on ne peut plus rien faire, on va chercher Dieu. Cherche Dieu à l'instant précis où les choses se manifestent. Cherche Dieu au lieu d'essayer de régler les choses par toi-même. Donc, ici, dans cette situation, le roi, au lieu de chercher Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Lisons verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?»
Mirongo itatu ngo maze umwami yumvise uwo mugore yitanamira ko imuzu ziwe nuko ariko arahita ku nzitiro abantu baravye babona yambaye amagunira imbere ku mubiri maze aravuga ati Elisa mwene Shafati uyu munsi ni yagume ku mutwe Imana irakamitana kandi birushirije kandi Elisa yari yicaye mu nzu yiwe yicaranye n'abashingantahe kandi umwami kandi ngo umwami yaratumye intumwa kuri we ariko iyo ntumwa iramushikira Elisa aramuhorera abona abashingana ati mubona ko ari umwami w'umwicanyi atumye yuko umwami w'umwicanyi atumye uwo nkuca umutwe nuko iyo ntumwa niyashika muyugarane mugumye urugi none ibirenge vya shebuja ntibyumva ingene byumvikana inyuma yiwe ari akivuga nabo umwami aramanuka aja iyari avuga ati bivyago ko bivuye kuhoraho hari ikintu kizigiriza kimufiseko hari ikintu kizigiriza kimufiseko
amen
amen
amen. On voit encore ici
hano turabona kandi
l'attitude de cet homme.
Turabona yifato y'uwo mugabo.
Cette fois il veut tuer le prophète.
Hano rero ashaka kwica uvugishwa n'Imana.
On voit quand il est avec Josaphat.
Josaphat
dit, il faut le consulter.
Donc,
cet homme avait eu un exemple sous les yeux. Il savait ce qu'il fallait faire. Mais cet homme avait un cœur tordu. Dans la deuxième situation, il pense qu'on veut l'attaquer personnellement alors que ce n'est pas le cas. Et dans cette troisième situation, il n'a toujours pas changé. Et cette fois, il veut carrément tuer le prophète. C'est de la faute d'Élisée. C'est de la faute d'Élisée si nous sommes assiégés. C'est de la faute d'Élisée si les gens s'entre-dévorent. Et il veut le tuer. Voyez jusqu'où les choses peuvent aller. Moi, je vous encourage, quoi qu'il puisse arriver, avant de tirer des conclusions, avant de dire que ou de penser que, demandez au Seigneur de vous éclairer parce que lui est un Dieu de vérité. Il connaît la vérité et quand il parle c'est pour nous dire la vérité. Amen. Et quand on comprend bien les choses, ça nous évite de nous égarer dans ce genre d'histoire, de ce genre de travers. Parce que je ne sais pas où est le roi Joram aujourd'hui. Et je suis vraiment contente que ma vie ne soit pas écrite comme ça dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a vraiment de quoi avoir honte.
Et
moi, je ne suis pas le roi Joram, mais je... Amen. Il y a de quoi avoir honte. Il a vu Dieu à l'œuvre une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, il se comporte n'importe comment. Il pense n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Et comme il est roi, c'est-à-dire qu'il est dans une position élevée, il est très dangereux. Amen. Amen. Donc, on va reprendre l'histoire des rois de Moab, du roi de Moab qui monte contre Israël. On retourne dans 2 Rois, chapitre 3. Et maintenant, je pense que vous pouvez comprendre
parce
que j'ai voulu aller dans les deux autres histoires avant. Vous pouvez comprendre la colère d'Élisée. Élisée s'est pas mis en colère n'importe comment comme ça.
Mais
Élisée était véritablement un homme de Dieu et il a discerné le cœur de cet homme. Vous savez que quand il y a eu l'histoire de Naaman, son propre serviteur a essayé de récupérer des vêtements et de l'argent auprès de Naaman une fois qu'il a été guéri, en mentant. Son serviteur qui s'appelle Géasi est venu voir Naaman en disant « Mon maître demande que tu puisses donner de l'argent et des vêtements. » Il a pris ses biens et il est parti les cacher. Et quand il a fait cela, le Seigneur l'a révélé. Il l'a révélé à Élisée. Élisée n'était pas un mauvais homme. C'est juste qu'il avait du discernement et qu'il fonctionnait dans le don de la parole de connaissance. C'est-à-dire que quand il y avait des choses, Dieu lui disait. Et là, Élisée est en colère contre Joram. Et quand on a lu les autres histoires, on peut voir que c'était à juste titre. Donc, lisons ensemble verset 14 et verset 15. Élisée dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi, je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen.
Elisa namwishura ati nkurahiye guhoraho kuhoraho nyene ingabo wonsavye iyo ntubaha Yoshafati umwami w'Abayuda sinari kuruha nkuraba ngo nkwishure ngushire wijisho ariko noneho nzanira umuvugizi w'inanga uwo muvugizi w'inanga ashitse atangura kuvuza ukuboko kuhoraho kuza kuri Elisa.
On voit ici que le prophète Élisée était en colère à cause de Joram, à cause de ce qu'il manifestait, à cause de ses paroles, à cause de son cœur tordu. Il était en colère. Mais il devait donner une parole. Parce qu'il était l'homme de Dieu. Amen. Et comme il était prophète, et qu'on était venu consulter le Seigneur, il se devait de donner une parole de la part de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un joueur de harpe. Et ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ce joueur de harpe, lorsqu'il a commencé à jouer, certainement, parce que vous savez, les psaumes, c'était des psaumes chantés à la base. Il a dû jouer une chanson quelconque, un psaume quelconque, enfin je ne sais pas lequel. Et quand peut-être c'était le psaume 23, parce que c'était un psaume de David. Et quand il était en train de jouer, Élisée a pu se connecter. Il était déconnecté à cause de sa colère. Il était en colère à cause de certaines attitudes. Vous allez me dire, mais il n'aurait pas dû se mettre en colère. Et moi, je vais vous répondre, j'aurais bien aimé vous y voir. Parce que ça vous aurait sûrement fait quelque chose aussi. Donc, ici, le joueur de harpe, il est en train de jouer de la musique selon la parole de Dieu. Et pendant qu'il est en train de jouer, Élisée se déconnecte des attitudes de Joram, des paroles de Joram. Il oublie ces choses. Il laisse tomber ces choses et il commence à se connecter vers Dieu. Vous savez, il n'y a rien de spécial dans le joueur de harpe. Parce que s'il y avait eu quelque chose dans cet homme, il y aurait au moins écrit son nom dans la Bible, mais son nom, on ne le connaît même pas. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que quand on est à l'église et qu'on est en train de louer Dieu, il faut que vous vous connectiez sur le Seigneur. Amen. Nous devons nous connecter sur le Seigneur. Non pas nous connecter sur les hommes. Non pas penser que les hommes ont une grande importance. Parce que quand il s'agit, maintenant je fais le rapprochement avec ce qui se passe à l'église, il s'agit de la louange et du groupe de louange. C'est un ministère d'aide. C'est-à-dire que ils sont là pour nous aider à nous connecter à Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. Amen. Ils sont là pour nous aider à nous connecter à Dieu. Et on voit ici que le joueur de harpe a fait correctement son travail. Parce qu'il jouait de tout son cœur. Certainement, j'imagine, il était en train de jouer des louanges du Seigneur. Et il n'attirait pas l'attention sur lui-même. Mais il a aidé Élisée à se connecter à Dieu.
Amen.
La parole n'est pas venue du joueur de harpe. La parole est venue du serviteur de Dieu qui était prophète.
Et
quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'il y a différentes époques où il y avait des prophètes. Du temps d'Élie et d'Élisée, il y avait beaucoup de prophètes. Du temps de David, il y avait beaucoup d'hommes qui exerçaient ce ministère prophétique au travers de la louange, parce qu'ils étaient au bénéfice de l'onction qui était sur David. On voit David, on voit Asaph, Jedutun, les fils de Corée, toutes ces personnes qui ont vécu plus ou moins à la même époque que David et qui exerçaient eux-mêmes ce ministère. Amen. Donc Élisée trouve le moyen de se déconnecter de sa colère et de se connecter à Dieu. Et le joueur de harpe a joué son rôle. Amen. Il a joué son rôle. C'est-à-dire qu'il a joué cette musique. Et pendant que Élisée était en train d'écouter cette musique et de se connecter spirituellement, il reçoit la parole de Dieu, une parole prophétique qu'il va donner. Lisons à partir du verset 16, et il dit: « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. » Amen. Ça, c'est la parole. La parole qui est donnée, parce que le serviteur de Dieu s'est connecté. Amen. Aujourd'hui, vous et moi, comment est-ce que nous pouvons vivre ces choses? En nous connectant nous-mêmes.
Amen.
Il est vrai que ce ministère existe. Et d'ailleurs, il se manifeste dans cette église. Quand nous pouvons nous connecter dans la louange et dans l'adoration, souvent, pas tout le temps, pas toutes les cinq minutes, pas selon notre volonté, le Seigneur peut parler au travers du pasteur Olivier ou au travers de moi. Et souvent, quand le Seigneur parle au travers du pasteur Olivier, ce sont des paroles de connaissance concernant la guérison divine ou certaines situations dramatiques que des personnes peuvent traverser. Amen. Donc ces choses existent encore et elles existent aujourd'hui. Mais aussi vous-même personnellement. Vraiment, je vous engage, je vous encourage. Ne laissez pas les choses qui vous entourent pourrir votre vie, vous irriter ou vous blesser. Parce que si vous êtes irrité et blessé et que vous permettez à ces choses de dominer sur vous, vous ne pourrez jamais écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu a pour votre vie. Parce que l'Esprit de Dieu parle dans votre esprit pour vous dire quoi faire, pour vous dire comment faire, pour vous donner des solutions. Gloire à Dieu. Il est souverain. Qu'il parle comme il en a envie. Amen. que ce soit au travers de ses serviteurs, que ce soit au travers de sa parole. C'est pour ça, vraiment, je vous encourage, soyez des personnes de la parole. Si tu ouvres ta Bible seulement une fois par mois, je ne vois pas comment Dieu va te parler au travers de sa parole. Amen. Il va te parler au travers de la relation que tu as avec lui. Privilégie cette relation. Sois quelqu'un de relationnel avec Dieu. Quelqu'un qui entend et qui reconnaît sa voix dès qu'elle se manifeste. Vous savez, il y a des personnes qui ont un problème relationnel avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas du temps dans sa présence. Ils vivent dans leur âme et non pas dans leur esprit. Et ils sont incapables de reconnaître quand Dieu leur parle. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui me disent je pense que Dieu me dit ça, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que Dieu m'a parlé. Et quand on parle avec ces personnes, on les interroge, on dit mais quand tu prends du temps avec Dieu, est-ce que Dieu te parle? Je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais pas s'il me parle. Et ils sont dans une confusion totale. Jean chapitre 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix ». Nous avons cette capacité d'entendre sa voix pour nous-mêmes. Amen. Pour nous-mêmes. Tu as cette capacité. Dieu peut te parler au travers d'un de ses serviteurs, mais tu as pour toi-même cette capacité d'entendre sa voix. Et sache-le bien, quand Dieu parle, quand Dieu dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Ici, on voit la parole qui a été donnée. Ils ont obéi à cette parole et ils ont eu de l'eau à boire. Et en plus, ils ont vu une délivrance extraordinaire. Moi, ce que je ne veux pas parler longuement de la façon dont Dieu s'est manifesté. Mais ce que je veux vous dire, et c'est le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, la parole prophétique peut être libérée de ta vie, dans ta vie, de différentes manières. Sois directement, si tu es quelqu'un de relationnel avec Dieu, quelqu'un qui est un adorateur, qui connaît, qui comprend les choses de Dieu. Et tu peux les connaître et tu peux les comprendre. Amen. Amen. Garde ton cœur par-dessus tout, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Vous savez, parfois, il y a des choses qui arrivent. Et avant de se précipiter à tirer des conclusions, nous devons demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que je dois faire? Plutôt que de se précipiter. Il y a ici quelqu'un. Il y a une personne ici. Tu es un petit peu dans le trouble concernant tes affaires, concernant tes affaires, ton business, tes affaires personnelles. Et tu es prêt à te précipiter dans une direction parce qu'il y a des pressions sur ta vie. Et le Seigneur te dit, ne fais pas ce que tu es prêt à faire sans réfléchir, en te précipitant, juste parce qu'il y a des pressions et tu as l'impression que tu es devant le gouffre. Rappelle-toi de cette histoire ici. Ne te précipite pas. Prie et cherche ma face, parce que j'ai une solution pour toi. Et ce n'est pas dans la précipitation, ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas parce qu'on te dit il faut que tu dois faire ça, tu n'as pas le choix. Et le Seigneur te dit, tu as un choix, celui de me chercher, parce que j'ai pour ta vie, pour ton business, un chemin de délivrance. Ne crains pas, crois seulement. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas bousculer par quoi que ce soit. Et fais-moi confiance, le Seigneur, te dit le Seigneur, et tu verras ma gloire. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, parce qu'elle est vraie. parce qu'elle est bonne. Oui, elle est bonne pour nos vies. Nous voulons la recevoir avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Nous voulons ouvrir nos cœurs devant toi. Oui, nous le voulons vraiment. Seigneur, nous ne voulons en rien ressembler à ce roi Joram qui ne te connaissait pas, qui ne comprenait rien, qui était absolument incapable de comprendre quoi que ce soit, parce que cet homme avait un cœur tordu. Seigneur, nous ne voulons pas avoir un cœur tordu. Nous voulons avoir un cœur qui comprend. Voulons, je prie pour ton église, afin que chaque personne puisse comprendre pour lui-même ce que tu veux lui dire. Que chaque personne ici présente pour lui-même puisse comprendre véritablement ta parole et ce qu'elle veut dire pour sa propre vie. Merci de donner cette sagesse à ton peuple. Cette sagesse et cette intelligence spirituelle, afin qu'ils comprennent tes voies et qu'ils puissent marcher avec toi dans ta présence et dans ta délivrance. Merci Seigneur pour l'onction. Merci pour l'onction prophétique. Merci pour la manifestation des dons spirituels. Merci pour la connexion à ton esprit, que ce soit pour tes serviteurs, mais que ce soit aussi pour ton peuple, parce que chacun peut pour lui-même peut comprendre les choses qui viennent de toi et recevoir de toi directement la parole dont il a besoin. À toi la gloire pour ces choses, Seigneur. Je parle une église forte, un peuple qui connaît ton nom, un peuple qui voit ta gloire, ta délivrance et ta victoire.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.